Chapitre 2. Respire un bon coup. Méfie-toi des conclusions trop hâtives. Oui, la pesanteur est trop élevée. Partant de là, réfléchis à une explication sensée. Je pourrais être dans une centrifugeuse, une grosse. Sachant que la pesanteur terrestre est de 1G, ces salles pourraient être inclinées et montées sur des rails circulaires, ou à l'extrémité d'un long bras qui, s'il tourne à la bonne vitesse, pourrait générer une force centripète suffisante pour que la pesanteur y atteigne 15 mètres par seconde carrée. Pourquoi fabriquerait-on une centrifugeuse équipée de lits d'hôpitaux et d'un laboratoire? Je n'en sais rien. Serait-ce seulement possible? Quelles devraient être ses dimensions? Et à quelle vitesse devrait-elle tourner? Je crois savoir comment le découvrir. J'ai simplement besoin d'un bon accéléromètre. Faire tomber des objets d'une table et chronométrer leur chute permet d'aboutir à une estimation. Une estimation limitée par mon temps de réaction. Non, il me faut des résultats plus fiables et donc un morceau de ficelle. J'ouvre tous les tiroirs. Au bout de quelques minutes, j'ai passé au peigne fin la moitié du labo et j'ai trouvé à peu près tout ce que peut contenir un endroit comme celui-ci, sauf de la ficelle. Je suis sur le point d'abandonner lorsque je mets la main sur une bobine de fil de nylon. Oui. Je déroule quelques dizaines de centimètres de fil que je coupe avec les dents. Je fais une boucle à une extrémité et attache l'autre au maître ruban. Celui-ci jouera le rôle du poids mort dans cette expérience. Il me suffit maintenant de trouver un endroit où le suspendre. Je lève la tête et avise l'écoutille. Je gravis l'échelle, plus facilement que la fois précédente, et passe la boucle autour de la poignée principale, puis je laisse le poids du maître ruban tendre le fil de nylon. Voilà, j'ai mon pendule. Une propriété intéressante du pendule, le temps qu'il met à se balancer d'avant en arrière, sa période, ne varie pas, et ce, quelle que soit l'amplitude de ses balancements. S'il dispose de beaucoup d'énergie, il se balancera plus loin et plus vite, mais sa période restera la même. C'est ce qui permet aux horloges mécaniques de donner l'heure. La période dépend de deux facteurs seulement, la longueur du pendule et la pesanteur. Je tire sur le fil et je le relâche en déclenchant le chronomètre. Comme il se balance, je compte les cycles. Ce n'est pas très excitant. Je suis presque tenté de m'endormir, mais je résiste. Au bout de 10 minutes exactement, comme le pendule ne bouge presque plus, je décide que c'est assez. Résultat des courses, 346 cycles complets. Maintenant, la phase 2. Je mesure la distance qui sépare la poignée de l'écoutille du sol. Un tout petit peu plus de 2,50 m. Je redescends dans la chambre à coucher. Comme la fois précédente, l'échelle ne me pose pas de problème. Je me sens réellement mieux. Mon repas m'a fait un bien fou. « Comment vous appelez-vous ? » demande l'ordinateur. « Je suis le grand philosophe Pendulous, » réponds-je en admirant ma toge de fortune. « Incorrect. » Je suspends le pendule à la pince d'un des bras robotiques au plafond. J'espère que celui-ci restera tranquille pendant quelque temps. À vue de nez, j'évalue la distance séparant la pince du plafond à 1 mètre. Mon pendule est suspendu 3,5 mètres plus bas que la première fois. Je répète l'expérience. 10 minutes sur le chronomètre et je compte les cycles. Résultat, 346. Pareil qu'à l'étage au-dessus. Diantre. Dans une centrifugeuse, plus on s'éloigne de l'axe central, plus la force centripète est grande. Si j'étais dans une centrifugeuse, la pesanteur dans la chambre du bas serait plus importante que dans le labo. Et ce n'est pas le cas. En tout cas, elle ne l'est pas suffisamment pour que le nombre de cycles du pendule soit différent. Et si j'étais dans une centrifugeuse vraiment très grande, si grande que la différence de force entre la chambre et le labo ne serait pas significative? Voyons voir. La formule pour un pendule et la formule pour la force d'une centrifugeuse, je ne connais pas la force. Je dispose simplement d'un nombre de cycles, ce qui implique un facteur d'1 sur x. Eh, cela nous donne un problème très instructif. J'ai un stylo, pas de papier. Pas grave, il y a le mur. Après moult griffonnages de prisonniers fous, j'ai la réponse. Disons que je suis sur Terre dans une centrifugeuse. Cela signifie que cette dernière produit un demi-G, le restant étant à mettre au crédit de la planète. D'après mes calculs, et j'ai montré de quoi j'étais capable, la centrifugeuse devrait avoir un rayon de 446 mètres et tourner à 4 mètres par seconde, c'est-à-dire à plus de 160 km par heure. Lorsque j'effectue des calculs scientifiques, je pense en mètres. Intéressant. La plupart des scientifiques font comme moi, non? Même ceux qui ont grandi aux États-Unis. Ce serait donc la plus grande centrifugeuse jamais construite, mais dans quel but? En plus, un dispositif de ce genre serait fichtrement bruyant. Fendre l'air à 160 km par heure, il y aurait des turbulences ou un peu de résistance, sans parler du bruit du vent. Je n'entends ni ne sens rien de tout cela. Cela commence à être bizarre. Bon. Et si j'étais dans l'espace? Il n'y aurait ni turbulence ni résistance. Mais la centrifugeuse devrait être plus grande et plus rapide, car il n'y aurait aucune pesanteur. Encore des calculs, encore des graffitis sur les murs. Le rayon devrait mesurer 1280 mètres. Rien d'aussi grand n'a jamais été construit dans l'espace. Je ne suis donc pas dans une centrifugeuse, ni sur Terre. Une autre planète, alors? Aucune planète, aucune lune, ni aucun astéroïde dans tout le système solaire ne produit une telle pesanteur. La Terre est l'objet solide le plus gros du système. Les géantes gazeuses sont plus grosses, bien sûr, mais à moins de me trouver dans un ballon flottant dans les vents de Jupiter, aucun endroit ne peut me soumettre à pareille force. D'où me viennent toutes ces connaissances sur l'espace? Elles sont là, indéniablement, comme une seconde nature, des données que j'utilise constamment. Peut-être suis-je astronome ou planétologue? Si cela se trouve, je travaille pour la NASA, l'ESA ou... Je retrouvais Marissa tous les jeudis soirs chez Murphy's, sur Gough Street, pour un steak et une bière. À 18 h pile, et comme le personnel nous connaissait, à la même table. On s'était rencontrés près de 20 ans plus tôt à la fac. Elle sortait avec mon colocataire. Leur relation, comme la plupart des amours de fac, n'était pas faite pour durer, et cessa au bout de 3 mois. Elle et moi restâmes bons amis, cependant. Lorsqu'il me vit, le patron sourit et me montra du pouce notre box habituelle. Je traversais le décor kitsch pour rejoindre Marissa. À voir les verres vides qui trônaient sur la table, je conclus qu'elle était à son troisième whisky. Elle avait décidé de commencer tôt. « Tu prends de l'avance? » lançai-je en m'asseyant. Elle baissa les yeux et manipula son verre. « Qu'est-ce qui se passe? »« La journée a été difficile, » répondit-elle en avalant une gorgée d'alcool. Je fis signe au serveur, qui hocha la tête et n'eut même pas besoin de se déplacer. Il savait que je voulais un faux filet cuit à point avec de la purée de pommes de terre et une pinte de Guinness, comme chaque semaine. « Difficile comment? » manquis-je. « Tu as un poste peinard au département de l'énergie, une bonne vingtaine de jours de congés payés par an, et tout ce que tu as à faire pour être payé, c'est pointer à l'heure le matin. » Pas de rire. Rien. « Allez, » repris-je. « Quelqu'un a fait caca dans tes Rice Krispies? « Tu as entendu parler de la ligne de Petrova? » me demanda-t-elle dans un soupir. « Bien sûr. C'est un mystère intéressant. » Perso, je pense que ce sont des radiations solaires. Vénus n'a pas de champ magnétique, mais des particules chargées positivement pourraient être attirées, parce qu'une planète électriquement neutre... Non, c'est autre chose. Nous ne savons pas quoi exactement, mais c'est autre chose. Peu importe, mangeons notre steak. Allez, crache le morceau, insistai-je. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle parut réfléchir pendant quelques secondes. Pourquoi pas? De toute façon, le président expliquera tout ça dans une dizaine d'heures. Le président? « Des États-Unis ?» Elle avala une grande gorgée de whisky. « Tu as entendu parler d'Amaterasu ? C'est une sonde solaire japonaise. » « Bien sûr. La JAXA a ratissé d'excellentes données grâce à elle. C'est une super sonde. Elle est en orbite solaire quelque part entre Mercure et Vénus. Elle embarque une vingtaine d'instruments qui...
Oui, je sais, je sais. »
D'après leurs données, la production énergétique du Soleil a diminué. « Et alors ?» demandai-je en haussant les épaules. « Où en sommes-nous dans le cycle solaire ?»«
Non, ce n'est pas le cycle de 11 ans, »
contesta-t-elle en secouant la tête.
« C'est autre chose. La JAXA a tenu compte du cycle, et il y a quand même une diminution. Ils disent que l'éclat du Soleil a baissé de 0,01%. »«
D'accord, intéressant, mais pas au point d'avaler 3 verres de whisky avant de dîner. »
« Ouais, c'est ce que je me disais aussi, »
acquiesça-t-elle en faisant la moue.
« Ils affirment que cette valeur augmente et que le rythme de l'augmentation augmente. Il s'agit donc d'une perte exponentielle qu'ils ont captée très très tôt, grâce aux instruments extrêmement sensibles de leur sonde. »
« Je ne sais pas, Marissa, » tempérai-je en m'appuyant contre la paroi du box. « Détecter une progression exponentielle si tôt dans le processus me semble difficile. Mais admettons que les scientifiques de la JAXA aient raison. Où irait toute cette énergie ?»«
La ligne de Petrova. »«
Hein ?»
La JAXA a examiné la ligne de Petrova de très près et elle affirme que ses émissions augmentent à mesure que la lumière du Soleil diminue. La ligne de Petrova, quelle que soit sa nature, vole l'énergie du Soleil.
Elle sortit un paquet de feuilles de son sac et le posa sur la table. Des graphiques et des tableaux. Elle les passa rapidement en revue, trouva ce qu'elle cherchait et fit glisser la feuille vers moi. En abscisse, il y avait le temps, en ordonnée, la perte de luminosité. La courbe était en effet exponentielle.
« Ce n'est pas possible, » commentai-je.
« Et pourtant si. La luminosité du Soleil baissera de 1% au cours des 9 années qui viennent. En 20 ans, on sera à 5%. Ce n'est pas bon, pas bon du tout. »
« Ça voudrait dire une ère glaciaire, » conclus-je en examinant le graphique. « Elle viendrait brusquement d'un seul coup. »«
Ouais, au moins. Récolte catastrophique, famine de masse et j'en passe. »«
Comment le Soleil peut-il changer si rapidement ?» protestai-je en secouant la tête. « C'est une étoile, nom de nom. Les étoiles ne changent pas comme ça. Les évolutions se font sur des millions d'années, pas quelques dizaines. Tu le sais, n'est-ce pas ?»«
Eh bien, non. Je le savais, mais je ne sais plus. Tout ce que je sais désormais, c'est que le Soleil est en train de mourir. J'ignore pourquoi, et je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. En tout cas, je sais qu'il meurt. »
« Mais comment ?» demandai-je en plissant le front. Elle avala ce qui restait de son whisky.
« Le président s'adressera à la nation demain matin. Je crois savoir que les grands leaders de ce monde se sont mis d'accord pour faire une annonce en même temps. »
Le serveur posa ma Guinness devant moi.
« Voilà votre bière, monsieur. Les steaks ne devraient pas tarder. »«
J'ai besoin d'un autre whisky, » lança Marissa.
« 2 whiskies, s'il vous plaît, » dis-je. Je cligne des yeux. Un autre fragment de souvenir. Est-ce vrai? Ou bien s'agit-il du souvenir vague d'une conversation avec une obsédée de la fin du monde? Non, non, c'est bien vrai. Et cela me terrifie. Ma terreur n'est pas subite. Elle est familière, confortablement installée. Elle a son rond de serviette dans mon esprit. Elle et moi nous connaissons bien. C'est donc vrai. Le Soleil se meurt et je suis mêlé à cette histoire. Non, pas comme un simple terrien sur le point de mourir avec les autres, non. J'y suis activement mêlé. J'accomplis mon devoir. Je ne me rappelle pas mon nom, mais je me souviens de la ligne de Petrova, du problème de Petrova. Oui, l'expression vient de me revenir. Mon subconscient a ses priorités et il n'a de cesse de me ramener à cette histoire. Je crois bien que ma mission consiste à résoudre le problème de Petrova. Dans un petit labo,
vêtu d'une toche de fortune, en ne sachant même pas qui je suis et en ne pouvant compter que sur l'aide d'un ordinateur débile et de deux colocataires momifiés. Ma vue se brouille. J'essuie mes yeux. Des larmes. Je ne rappelle même pas leur nom, mais ce sont mes amis, mes camarades. Je me rends subitement compte que depuis le début, je me suis arrangé pour leur tourner le dos. J'ai fait tout mon possible pour ne pas les avoir dans mon champ de vision. J'ai longé le mur de la chambre comme un débile en tournant le dos à deux personnes qui comptaient pour moi. Ce temps est révolu, cependant. Je pivote sur mes talons pour les regarder. Un sanglot m'échappe, sans prévenir. Des souvenirs me reviennent de façon erratique. Elle était drôle. Elle avait la blague tellement facile. Lui était un professionnel au nerf d'acier. Il était soldat, je crois. Notre chef, très probablement. Je me laisse glisser jusqu'au sol et me prends la tête à deux mains. Impossible de me retenir davantage. Je pleure comme un enfant. Nous étions bien plus que des amis. Nous ne formions pas une simple équipe. Nos liens étaient bien plus forts. Nous étions... J'ai le mot sur le bout de la langue. Enfin, il se glisse dans mon esprit conscient. Il attendait que je regarde ailleurs pour revenir discrètement. Un équipage. Nous formions un équipage, et il ne reste plus que moi. Il s'agit d'un vaisseau. C'est maintenant une certitude. J'ignore d'où vient la pesanteur, mais il s'agit bien d'un vaisseau. Les pièces du puzzle trouvent leur place. Nous n'étions pas malades. Nous n'étions pas en animation suspendue. Ces lits ne sont pas des chambres d'hibernation magique. Nous ne sommes pas dans un film. Il n'y a aucune technologie spéciale à l'œuvre. À mon avis, nous étions en état de coma artificiel. Sonde alimentaire, intraveineuse, surveillance médicale constante, tout ce dont un corps a besoin. Les bras robotiques changeaient sans doute les draps, nous retournaient pour prévenir les escarres, accomplissaient toutes les tâches qui incombent normalement aux infirmières des services de soins intensifs. Et on nous maintenait en forme. Des électrodes sur tout le corps pour stimuler les mouvements musculaires. De l'exercice. Beaucoup d'exercice. Le coma, cependant, est un état dangereux. Très dangereux. Je suis le seul à avoir survécu, et mon esprit était en vrac. Je m'approche de la femme. Je me sens mieux en la regardant. Peut-être est-ce le sentiment d'accomplissement, ou le calme qui suit toujours la crise de larmes. La momie n'est équipée d'aucun tube, ni d'aucun dispositif de monitoring. J'avise un petit trou sur son poignet parcheminé, l'emplacement d'une intraveineuse sans doute. Elle est morte et le trou ne s'est jamais rebouché. L'ordinateur a sans doute retiré tous les tuyaux et sondes après le décès. Elle n'en avait plus besoin. Inutile de gâcher des ressources précieuses. Cela en ferait plus pour les survivants. Enfin, pour moi. Je prends une profonde inspiration et j'expire longuement. Il me faut rester calme et réfléchir posément. Je me rappelle beaucoup de choses. Mon équipage, certains aspects de leur personnalité, le fait que je me trouve à bord d'un vaisseau, mais je m'inquiéterai de cela plus tard. Je recouvre progressivement la mémoire et mes souvenirs me reviennent lorsque j'en ai besoin et non pas à intervalles irréguliers. Je devrais me concentrer là-dessus, mais ma tristesse est trop grande. « Manger !» dit subitement l'ordinateur. Un panneau s'ouvre au plafond, laissant tomber un tube de nourriture. Un des bras robotiques le rattrape et le pose sur mon lit. Jour 1, repas 2. Je ne suis pas d'humeur à manger, mais mon ventre se met à gargouiller dès que je vois le tube. Quel que soit mon état mental, mon corps a des besoins. Je dévisse le bouchon du tube et empresse le contenu dans ma bouche. Force m'est de l'avouer, la sensation sur mes papilles est intense. On dirait du poulet, avec des traces de légumes. Il n'y a pas de texture, évidemment. C'est pour ainsi dire de la nourriture pour bébé. La pâte est légèrement plus épaisse que mon premier repas. Il s'agit de réhabituer mon système digestif à la nourriture solide.
« De l'eau ?»
demandai-je entre deux bouchées. Le panneau au plafond se rouvre et apparaît un cylindre métallique. Un brame le temps. « Eau potable, lis-je sur le métal brillant. J'en dévisse le bouchon et effectivement c'est de l'eau. J'en prends une gorgée. Elle est à température ambiante et fade. Sans doute est-elle distillée et dénuée de minéraux, mais c'est de l'eau quand même. Je termine mon repas. Je n'ai pas encore eu besoin d'aller aux toilettes, mais cela ne va pas tarder, et j'aimerais autant ne pas avoir à faire mes besoins par terre. Toilette ? Un panneau mural pivote pour révéler une cuvette en métal, comme dans une cellule de prison. Je la regarde de plus près. Il y a des boutons et des machins dessus. Je crois qu'il y a un conduit à vide au fond. Et il n'y a pas d'eau. On dirait des toilettes 0G, modifiées pour un usage ordinaire. Mais pourquoi ferait-on une chose pareille ? D'accord, je n'en ai plus besoin. Le panneau pivote et la cuvette disparaît. Bien. Je suis rassasié, j'accepte un peu mieux ma situation. La nourriture a parfois cet effet. Je dois me concentrer sur quelque chose de positif. Je suis en vie. Ce qui a tué mes amis n'a pas eu raison de moi. Je suis à bord d'un vaisseau spatial. Je ne connais pas les détails, mais je suis à bord d'un vaisseau qui semble fonctionner correctement. Et mon état mental s'améliore. J'en ai la certitude. Je m'assieds en tailleur sur le sol. Il est temps d'être proactif. Je ferme les paupières et laisse mon esprit vagabonder. Je veux me rappeler quelque chose, n'importe quoi, consciemment, exprès. Je veux par-dessus tout initier le processus et voir ce que j'obtiens. Je commence par ce qui me rend heureux. J'aime les sciences, je le sais. Les petites expériences que j'ai pratiquées me l'ont montré. Et je suis dans l'espace. Donc, si je pense à l'espace et à la science, peut-être que... Je sortis le plat de spaghettis brûlant du four à micro-ondes et me dirigeai vers le canapé. Je décollai la feuille en plastique pour laisser la vapeur s'échapper. Je remis le son de la télévision pour écouter le direct. Plusieurs collègues et amis m'avaient proposé de regarder l'émission avec eux, mais je n'avais pas envie de passer la soirée à répondre à leurs questions. J'avais besoin de tranquillité. C'était l'événement le plus regardé de toute l'histoire humaine. Plus regardé que l'alunissage, qu'une finale de Coupe du Monde. Tous les réseaux, le moindre site de streaming ou d'information continue, la plus petite chaîne de télévision locale montrait la même chose, le direct fourni par la NASA. Une journaliste se tenait avec un homme âgé sur la galerie d'une salle de contrôle. Derrière eux, des femmes et des hommes en chemise bleue ne lâchaient pas leurs terminaux des yeux.
« Ici Sandra Elias »,
commença la journaliste.
« Nous sommes en direct des locaux du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie, avec le Dr. Brown, chef du département des sciences planétaires de la NASA. »
Elle se tourna vers le vieil homme.
« Docteur, que pouvez-vous nous dire sur l'état actuel de la mission ?»
Brown se racla la gorge.
« Nous avons reçu, il y a 90 minutes, la confirmation qu'Arclight s'est mise en orbite autour de Vénus. Nous attendons de recevoir un premier paquet de données. »
Nous avions vécu une année chaotique depuis que la JAXA avait rendu public le problème de Petrova. Les études qui s'étaient succédées depuis n'avaient fait que confirmer sa découverte. L'horloge avançait et le monde avait urgemment besoin de comprendre ce qui se passait. Le projet Arclight était donc né. La situation était terrifiante, mais le projet en lui-même était extraordinaire. Le geek qui sommeillait en moi ne pouvait s'empêcher d'être fasciné et excité. Arclight était la sonde automatique la plus onéreuse jamais construite. Le monde avait besoin de réponses, et le temps n'était plus aux tergiversations. Autrefois, si on avait demandé une agence spatiale d'envoyer un engin vers Vénus en moins d'un an, elle vous aurait ri au nez. Avec un budget illimité, cependant, on peut accomplir des prodiges. Les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon avaient mis la main au portefeuille.
Parlez-nous de ce voyage vers Vénus,
reprit la journaliste.
Qu'est-ce qui le rend si difficile? Le problème principal, c'est le carburant,
expliqua Brown.
Il existe des fenêtres de transfert spécifiques qui permettent de diminuer considérablement les besoins en carburant. Mais nous étions très loin de la fenêtre Terre-Vénus. Il a donc fallu mettre beaucoup de carburant en orbite pour permettre à Arclight de faire le voyage. C'est donc un problème de mauvais timing,
l'interrogea la journaliste.
Il n'y a pas de bon moment pour que le soleil s'assombrisse. Vous avez tout à fait raison. Poursuivez, je vous prie. Vénus se déplace très vite comparé à la Terre, ce qui signifie encore plus de carburant pour la rattraper. Même dans des conditions idéales, il faut plus de carburant pour atteindre Vénus que pour atteindre Mars. Oui, c'est incroyable. Docteur, certaines voix s'élèvent et demandent « Pourquoi se diriger vers la planète ?» La ligne de Petrova est énorme. Elle décrit un arc entre le Soleil et Vénus. Pourquoi ne pas viser un point situé quelque part au milieu? Parce que la ligne de Petrova est plus large là-bas, aussi large que la planète. Et nous pouvons utiliser la gravitation de Vénus. Arclight orbitera 12 fois autour de la planète pour collecter le matériau, quel qu'il soit, dont est constituée la ligne de Petrova. Justement, ce matériau, vous avez une hypothèse peut-être?
Non,
répondit Brown.
Mais nous aurons peut-être des réponses bientôt. Une fois terminée la première orbite, le laboratoire d'analyse d'Arclight devrait avoir assez de matière pour travailler. Que pouvons-nous espérer découvrir ce soir? Pas grand-chose. Le labo embarqué est assez basique. Il contient un microscope très puissant et un spectromètre à rayon X. Il faudra attendre 3 mois que le vaisseau rentre sur Terre avec ses échantillons. Le labo d'Arclight ne sert que de moyen de sauvegarde dans le cas où le retour se passerait mal. Vous avez tout prévu alors, Dr. Brown? Nous faisons juste notre métier.
Des applaudissements retentirent derrière la journaliste.
Apparemment...
Elle s'interrompit en attendant que le calme revienne.
Apparemment, l'appareil a complété sa première orbite et les données commencent à affluer.
Le moniteur principal afficha une image en noir et blanc. L'écran était presque tout gris, avec quelques taches noires çà et là.
« Que sommes-nous en train de regarder, docteur ?»
demanda la journaliste en voix off.
« Cela vient du microscope interne. Il grossit 10 000 fois. Ces taches noires ont un diamètre d'environ 10 microns. Ces points sont-ils ce que nous cherchions ?»« Il est trop tôt pour le dire. Il pourrait s'agir de simples grains de poussière. » Une source de gravitation de la taille d'une planète est forcément entourée d'un nuage de poussière.
« Putain, mais qu'est-ce que... »
lança une voix en arrière-plan, tandis que plusieurs contrôleurs sursautaient.
« Ah, l'enthousiasme est grand ici à JPL !»
commenta en souriant la journaliste.
« Nous sommes en direct, aussi veuillez nous pardonner si... »«
Oh mon Dieu !»
s'exclama Brown. D'autres images affluèrent sur le moniteur principal. Elles se succédèrent, identiques, ou presque. Presque, en effet.
Est-ce que ces particules bougent?
Demanda la journaliste. Les images successives montraient que les points noirs se déplaçaient dans leur environnement. La femme s'éclaircit la voix et délivra l'euphémisme du siècle.
On dirait un peu des microbes, non? Télémétrie!
S'écria le docteur Brown.
« Y a-t-il du flottement dans la sonde ?»«
Déjà vérifié, »
répondit quelqu'un.
« Pas de flottement. »«
Les mouvements vont-ils dans une direction particulière ?»
demanda Brown.
« Quelque chose qui pourrait être expliqué par une force extérieure, du magnétisme, de l'électricité statique ?»
Le silence se fit.
« Quelqu'un veut bien me répondre ?»
Je lâchai ma fourchette dans mes spaghettis. De la vie extraterrestre? Suis-je chanceux à ce point? Ai-je le bonheur de vivre à une époque où l'humanité va découvrir une forme de vie extraterrestre? Oh! Le problème de Petrova restait terrifiant, mais... Oh! Des extraterrestres? Enfin, peut-être. J'avais hâte d'en parler avec les gosses le lendemain.
Anomalie angulaire,
dit l'ordinateur. Zut, j'y étais presque. J'étais tout près de me rappeler qui je suis.
Anomalie angulaire,
répète l'ordinateur. Je me déplie et me lève. Lorsque j'interagis avec lui, l'ordinateur semble me comprendre, comme Siri ou Alexa. Je lui parlerai donc comme j'aurais communiqué avec ce type d'assistant intelligent. Ordinateur, qu'est-ce qu'une anomalie angulaire ?
Anomalie angulaire ? Un objet ou un corps désigné comme critique ne se situe pas à l'emplacement prévu, l'angle variant d'au moins 0,01 radian.
Quel corps est anormal ?
Anomalie angulaire.
Mouais. Je suis à bord d'un vaisseau, donc il doit s'agir d'un problème de navigation. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Comment dirige-t-on ce machin ? Je n'y connais rien, mais je ne vois rien qui ressemble à des commandes. Tout ce que j'ai découvert pour le moment, c'est une salle de coma et un laboratoire. L'autre écoutille, celle qui se trouve au plafond du labo, doit être importante. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Explorer la zone pour trouver la porte, puis chercher la clé. Au lieu de fouiller sur des étagères chargées de livres ou dans des poubelles, il me faut chercher dans mon esprit, parce que la clé est mon nom. L'ordinateur n'est pas déraisonnable. Si je ne suis même pas capable de me rappeler mon propre nom, mieux vaut ne pas me donner accès aux parties les plus critiques du vaisseau. Je monte dans mon lit et je m'allonge sur le dos. Je surveille les bras robotiques d'un regard circonspect, mais ils ne bougent pas. Je suppose que l'ordinateur m'estime capable de me débrouiller seul maintenant. Je ferme les yeux et me concentre sur ce dernier souvenir. J'en vois des morceaux, des éclats en esprit, un peu comme je regarderais une vieille photo abîmée. Je suis dans ma maison. Non, mon appartement. J'ai un appartement. Il est propre mais petit. Sur le mur, une photo de la ligne des toits de San Francisco. Information inutile. Je sais déjà que je vivais à San Francisco. Un plat cuisiné micro-ondable est posé sur la table basse devant moi. Des spaghettis. La chaleur ne s'est pas encore diffusée, aussi trouve-t-on des nouilles quasiment congelées à côté de plasma brûlant. Je picore néanmoins. Je dois avoir faim. Je regarde la NASA à la télévision. Je revois les détails de ma vision précédente. Ma première réaction, je suis excité. S'agit-il d'une forme de vie extraterrestre ? J'ai hâte de raconter cela aux gosses. J'ai des gosses. C'est un petit appartement de célibataire où un célibataire mange un repas de célibataire. Je ne vois rien de féminin dans cette scène. Rien ne suggère qu'il y ait une femme dans ma vie. Suis-je divorcé ? Gay ? Dans tous les cas, il n'y a pas signe d'enfant autour de moi. Pas de jouets, pas de photos d'enfants sur les murs ou le manteau de la cheminée. Et l'appartement est bien trop propre. Les enfants fichent un bazar pas possible, surtout quand ils ont l'âge de mâcher du chewing-gum. Ils passent tous par une phase chewing-gum, enfin presque tous, et ils en laissent partout. Comment le sais-je ? J'aime les enfants. Enfin, c'est une impression. Je les aime bien, ils sont cool, leur compagnie est amusante. Je suis donc célibataire, j'ai la trentaine, je vis seul dans un petit appartement, je n'ai pas d'enfants, mais je les aime bien. Je n'aime pas trop où tout cela nous mène. Professeur, je suis enseignant. Je m'en souviens maintenant. Dieu merci. Je suis professeur.